Chapitre 5. Nous avons vu qu'après cette fameuse séance où le Sénat avait décrété tant de choses et n'en avait exécuté aucune, Cicéron était monté dans sa litière et s'était fait porter dans sa magnifique villa de Tusculum où l'attendait son frère Quintus. Tous deux attendirent là pendant quelque temps des nouvelles de Rome. Peut-être les triumvirs ne seraient-ils pas aussi cruels qu'on les faisait d'avance. D'ailleurs, Cicéron ne pouvait croire qu'il y eût quelque chose à craindre pour sa vie tant que l'enfant qu'il avait soutenu, grandi, vanté, serait au pouvoir. Octave ne l'appelait-il pas son père ? Le moyen qu'un père fût proscrit par son fils, quand la proscription, c'était non seulement l'exil, mais la mort ? Cependant, il fallut y croire. Le sang coulait à flots dans les rues de Rome. Les fuyards passaient devant la villa de Cicéron. Le bruit venait jusqu'à lui qu'Antoine voulait sa tête, l'ayant achetée à Octave. Cicéron résolut, sinon de quitter l'Italie, il ne pouvait s'y décider, mais de gagner Astira, autre maison de campagne qu'il possédait entre Antium et Circeum. De là, s'il était poursuivi, il s'embarquerait pour se rendre en Macédoine, près de Brutus, dont les forces s'étaient déjà considérablement augmentées, et allait s'augmenter encore de tous les proscrits qui parviendraient à s'échapper. Les deux frères partirent ensemble, chacun dans sa litière, accablés de tristesse tous deux, car ni l'un ni l'autre n'avaient d'espoir. Cependant, Quintus était le plus abattu. De temps en temps, les porteurs fatigués s'arrêtaient, rapprochaient les litières l'une de l'autre, et alors, par la portière, les deux frères causaient, Cicéron encourageant de son mieux Quintus. Ce qui tourmentait le plus Quintus, c'était le dénuement dans lequel il allait se trouver. Il était parti si rapidement qu'il n'avait eu le temps de prendre ni argent ni provisions. Cicéron était presque aussi dénué que son frère. Il fut décidé, comme étant le parti le plus sage, que Quintus, celui des deux frères qui avait le moins à craindre, retournerait à Tusculum pour y prendre tout ce qui serait non seulement nécessaire à une prompte fuite, mais à un long exil. Puis ils s'embrassèrent tendrement et se séparèrent en fondant en larmes. C'était la troisième fois que Cicéron s'exilait. Mais plus l'homme vieillit, plus l'exil lui est lourd. Il ne devait plus se revoir en effet. Quintus, en arrivant à Tusculum, trahi par ses domestiques, fut livré avec son fils à ceux qui le cherchaient. Alors il y eut, entre le père et le fils, une lutte de prières. Chacun demandait, non pas à vivre, mais au contraire à mourir le premier. Les bourreaux se mirent d'accord. Quatre prirent le père, quatre prirent le fils, et les égorgèrent en même temps. Quant à Cicéron, il continuait son chemin. En arrivant à Astira, il trouva un vaisseau prêt, il s'y embarqua, et, poussé par un bon vent, cingla jusqu'à Sericum. Cicéron ordonna de jeter l'ancre. Le pilote voulait continuer, disant qu'il ne serait jamais assez loin de Rome. Mais Cicéron insista, il ne pouvait se décider à quitter la terre d'Italie. Le pilote, qui était aux ordres de Cicéron, obéit. Cicéron mit pied à terre. Puis, machinalement, il se mit à marcher et fit 5 lieues dans la direction de Rome. Mais ces 5 lieues faites, il s'arrêta. Le danger qu'il courait se dressa devant lui, lui barrant en quelque sorte le chemin. Il reprit la route de la mer et revint à Astira. Il y rentra la nuit, seul et morne comme il convient à un fugitif, regagna sa chambre, aux yeux de ses serviteurs étonnés, s'y enferma et y passa une nuit d'angoisse, ne sachant que décider, n'ayant pas la force de fuir, sentant qu'il lui était impossible de rester. Une fois, il sauta en bas de son lit. Il venait de prendre une résolution extrême. Il voulait revenir à Rome, pénétrer dans la maison d'Octave, se poignarder à son foyer en le maudissant et attacher ainsi à ses pas une furie vengeresse. Mais tout à coup, il réfléchit qu'avant d'arriver à la maison d'Octave, qu'au moment d'y pénétrer même, il pouvait être pris et mis à la torture. Cette crainte l'arrêta. Le jour parut. Toujours flottant entre des partis dangereux, repoussant le seul qu'il fût raisonnable de prendre, c'est-à-dire une prompte fuite, il s'abandonna à ses domestiques, chargeant ceux-ci de le conduire à Caillette, où il avait un domaine, charmante villa pendant les mois brûlants surtout, car alors elle était rafraîchie par la fraîche haleine des vents étésiens. Sur le petit cap qui se prolongeait vers la mer et qui faisait partie de sa villa, Cicéron avait fait bâtir un petit temple à Apollon. À mesure qu'il s'approchait, l'œil fixé sur le rivage, il s'étonnait de voir ce temple tout noir comme s'il eût été en deuil. Lorsqu'il n'en fut plus qu'à une certaine distance, il reconnut qu'il était couvert de corbeaux. L'augure était sombre, les serviteurs de Cicéron hésitaient. Celui-ci leur ordonna de continuer leur chemin. Mais comme si les noirs oiseaux voulaient eux-mêmes lui donner un avis, ils quittèrent le temple et se dirigèrent vers le navire de Cicéron, tournoyant, battant des ailes et jetant de grands cris. Voyant que le vaisseau, malgré le présage, continuait son chemin, ils vinrent se poser de chaque côté de l'antenne, les uns croassant, les autres becquetant les cordages. Tous les domestiques criaient « Maître, reprenons la mer ! Maître, fuyons ! Ne voyez-vous pas le présage ?» Mais Cicéron, sans répondre, montrait du doigt la terre. On aborda. Cicéron débarqué, entra dans la maison pour prendre un peu de repos. Les corbeaux ne le quittèrent qu'à la porte. Il monta à sa chambre, qui était élevée, afin que de la fenêtre on pût voir la mer. Les fenêtres étaient ouvertes et les corbeaux obstinés étaient posés sur la fenêtre. Cicéron se jeta tout habillé sur son lit et, se couvrant le visage d'un pan de sa robe, s'endormit. Mais comme si, de même que la veille, son sommeil devait être troublé par de sombres augures, un des corbeaux entra dans sa chambre, se posa sur le lit et, sans s'effrayer, le réveilla en lui découvrant le visage. Un domestique entrait à ce moment et vit ce qui se passait. Il descendit alors, rassembla ses camarades et leur raconta ce qu'il venait de voir. Tous alors, s'excitant les uns les autres, se dirent « Nous ne pouvons cependant point rester ainsi, tranquilles et inertes, témoins du meurtre de notre maître, lorsque les animaux eux-mêmes viennent à son aide et le préviennent du sort qui le menace. » Alors les uns préparèrent la litière, les autres, moitié par prière, moitié par force, entraînèrent Cicéron qui ne voulait pas fuir, disant qu'à son âge et après une vie aussi remplie que la sienne, il devait attendre la mort et non pas lui donner la peine de courir après lui. Mais les serviteurs ne l'écoutèrent point et, le faisant monter dans la litière, ils prirent en courant le chemin de la mer. À peine avaient-ils quitté la villa que les meurtriers envoyés par centaines parurent. Ils étaient conduits par le centurion Hérénius et par Popelius, tribun des soldats. Ce dernier, accusé d'avoir tué son père, avait autrefois été défendu et sauvé par Cicéron. En fuyant, les domestiques avaient fermé les portes. Les soldats les enfoncèrent et cherchèrent par toute la maison. Cicéron n'y était pas et les domestiques, demeurés derrière leurs compagnons, affirmèrent ne pas l'avoir vu. Par malheur, il y avait là un jeune homme qui devait tout à Cicéron. Il se nommait Philologus, sans doute à cause d'une certaine aptitude à apprendre les langues. C'était un affranchi de Quintus que Cicéron avait instruit comme son propre enfant dans les sciences et dans les belles lettres. Au moment où le tribun passait près de lui, il lui dit tout bas « Vers la mer, par les allées couvertes !» Les soldats s'élancèrent hors de la maison et, comme ils hésitaient sur la route qu'ils devaient prendre, ils rencontrèrent un cordonnier, ancien client de Claudius, qui, joyeux d'avoir cette occasion de venger son patron, leur indiqua la route suivie par Cicéron. Celui-là, au moins, en avait le droit. Le centurion et le tribun des soldats se mirent à la poursuite de la litière. Cicéron entendit leurs pas dans le taillis, et, se doutant qu'il avait affaire à des assassins, ordonna à ses porteurs de s'arrêter et de déposer la litière sur la route. Ils obéirent. Au même instant, les meurtriers parurent. Cicéron les attendit, la main gauche appuyée à son menton, ce qui était son geste ordinaire, et regardant avec tranquillité ceux qui venaient lui donner la mort. Ce visage, défiguré par la douleur, ses cheveux hérissés et poudreux, ce regard fixe et intrépide, imposa un instant au meurtrier. La plupart des soldats se détournèrent ou se couvrirent le visage. Mais Hérénius s'approcha de Cicéron en lui disant « Il faut mourir !» Cicéron ne daigna pas répondre. Il tendit la tête hors de la portière et attendit le coup. Le coup ne se fit point attendre. Hérénius lui ouvrit d'abord la gorge, puis il détacha la tête du tronc. Puis enfin, ainsi que l'avait recommandé Antoine, lui coupa ses deux mains qui avaient écrit les Philippiques. cette mort calme et intrépide racheta, aux yeux de la postérité, les hésitations de sa vie. Sans doute Cicéron savait-il que le sang qui tache la mémoire du meurtrier lave celle de la victime. Ce qui reste aujourd'hui de Cicéron, c'est une renommée immense et une œuvre sublime. Antoine tenait les comices pour l'élection des magistrats lorsqu'un homme fendant la foule arriva jusqu'au pied de son tribunal. Cet homme déposa devant lui une tête et deux mains. C'était la tête et les deux mains de Cicéron. « Voici les proscriptions finies, » dit Antoine à la vue des sanglantes dépouilles. Puis il ordonna de clouer les mains à la tribune aux harangues et de porter la tête à Fulvie. Fulvie était à sa toilette. Assise au milieu de ses femmes qui la paraient, on lui présenta le sanglant trophée. L'œil de la veuve de Claudius étincela de joie. Elle prit la tête entre ses genoux, lui tira avec une pince la langue hors de la bouche et prenant une épingle d'or dans ses cheveux, elle en perça cette langue qui avait tué son premier époux et déshonoré le second. Cependant, on raconte que, lorsqu'Antoine, rentré chez lui, se fit raconter par Hérénius la mort de Cicéron, il eut, pour le compte de l'humanité, honte de la conduite de ce misérable Philologus et ordonna qu'il fût livré à Pomponia, femme de Quintus. Or, la légende antique, dont Plutarque se fait l'interprète, dit qu'une fois maîtresse du traître, Pomponia le força à couper lui-même des morceaux de son propre corps, de les faire rôtir et de les manger. Combien de temps dura cet effroyable supplice avant que de son rasoir Philologus coupât l'artère de la gorge ou les veines du bras? C'est ce que ne dit aucun historien. Convenons que les femmes de cette époque s'entendaient en vengeance. Tiron, la franchie de Cicéron, avait écrit une vie de son maître. Cette vie n'est connue que par la citation qu'en fait le commentateur Asconius. Plutarque, dans un geste d'enthousiasme républicain, est le plus complet biographe de Cicéron. Cicéron mort, proscrit, n'a pas eu de panégyriste. Nous nous trompons. Cornelius Severus a fait sur sa mort de splendides vers qui sont parvenus jusqu'à nous. Nous avons cité le nom du traître. Nous allions oublier celui de l'ami. Cicéron laissait un fils qui étudiait à Athènes. Nous l'y retrouverons et nous aurons l'occasion d'en dire quelques mots. Un jour, il y avait alors 35 à 40 ans que les événements que nous venons de raconter s'étaient passés, Octave, devenu Auguste, entra à l'improviste chez un de ses petits-fils au moment où celui-ci lisait un livre de Cicéron. Le jeune homme, craignant de blesser la susceptibilité de son grand-père, cacha le livre sous sa robe. Mais celui-ci, ayant vu le mouvement, prit le livre, l'ouvrit et lut quelques lignes. Alors, poussant un soupir et rendant le livre à son petit-fils, « C'était un savant homme, mon enfant, lui dit-il. Oui, un savant homme, et qui aimait bien sa patrie. » Ce panégyrique de l'auteur des Philippiques est curieux dans la bouche de son meurtrier. Au milieu des proscriptions, un grand exemple fut donné par un homme proscrit lui-même. Sextus Pompée, qui, maître de la Sicile, dominant sur la Méditerranée, s'intitulait le fils de Neptune, Sextus Pompée fit afficher dans les rues de Rome que, pour chaque proscrit sauvé, on recevrait de lui le double de ce qu'on recevait des triumvirs pour chaque proscrit assassiné.